Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons dans ce sermon, pour la dernière fois, parce qu'il faut bien s'arrêter, parler des anges, et cette fois-ci des mauvais anges, les démons, parce que je suis persuadé que les anges, d'une façon générale, sont mal connus, et par conséquent, cela nous gêne, enfin nous avons du mal à comprendre la dimension de notre vie chrétienne et du combat dans lequel nous sommes impliqués. Il y a beaucoup à dire sur les démons, et c'est très intéressant de lire le catéchisme du Concile de Trente sur cette question. C'est vraiment un catéchisme à la fois théologique et très pastoral, c'est-à-dire très utile aux fidèles. Premièrement, que sont les démons? Ce sont des anges déchus. Ce n'est pas parce qu'ils sont déchus qu'ils cessent d'être des anges. C'est-à-dire qu'ils gardent la nature angélique, même s'ils sont condamnés à l'enfer. Saint Paul les appelle des princes pour montrer l'excellence de leur nature. C'est-à-dire qu'ils ont conservé la nature angélique avec toute sa supériorité naturelle. Ils ont donc conservé la science que Dieu leur avait donnée. Vous vous rappelez, lorsque je vous ai parlé des anges qui sont appelés à jouir de la félicité éternelle de Dieu, Dieu les crée dans une perfection naturelle et les invite à dire oui pour leur permettre d'entrer dans la contemplation de la Sainte Trinité. Vous avez certains anges qui ont refusé. Ces anges qui ont refusé n'ont pas la foi, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas Dieu. Ils voient Dieu de l'extérieur, mais ils ne voient pas la Trinité. Ils ne connaissent pas les mystères de Dieu. Alors, je vous disais, les démons ont conservé la science que Dieu leur avait donnée. Prenez l'exemple d'un père qui aurait initié son fils à tous les secrets de son entreprise commerciale et industrielle à la tête de laquelle il voulait le mettre. Et supposez qu'après cela, le fils soit révolté contre son père et qu'il travaille justement à démolir cette entreprise ou à la voler dans son propre intérêt. Ce fils, quoique déchu, quoique renvoyé par son père à cause de sa révolte, garderait toute la connaissance des choses qu'il a acquises et que son père lui a données. Et supposez que son père l'ait choisi lui parce qu'il était le plus intelligent, le plus apte. Alors vous avez à ce moment-là le plus apte à qui le Père a révélé le plus de choses sur l'entreprise, qui va retourner tout cela, qui va ne pas le perdre. Il va le retourner pour lutter contre son Père et contre ses frères. Eh bien, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour les démons. Et quand il s'agit de Lucifer, qui était le plus riche de tous les démons en science, enfin le plus élevé, porteur de lumière, c'est pas rien, porteur de lumière. Ça veut dire que Dieu lui avait révélé énormément de choses sur la nature, pas les secrets de la Trinité. Parce que Dieu voulait que tout cela serve à sa gloire, mais le démon n'a pas voulu. Dieu s'y est pris d'une autre manière. Donc ils ont une connaissance supérieure, et en même temps, ils ont une infériorité par rapport à nous, les chrétiens. Ils ne connaissent pas les mystères divins, ils ne les connaissent que de l'extérieur. Comme quelqu'un qui n'aurait pas la foi, vous voyez, qui jugerait par les effets. Ils ont une intelligence plus élevée et plus pénétrante que la nôtre. Et ils ont une intelligence surtout à la fois spéculative et pratique, c'est-à-dire qu'ils savent mettre les principes en œuvre et dans toute œuvre, ils remontent aux principes. Jamais un ange ne fera de compromis. Jamais il ne cédera sur quelque chose qui engage des principes. L'ange voit les choses les plus élevées et les choses les plus concrètes d'un seul regard. Il n'a pas besoin de diviser comme nous, il n'a pas besoin de composer, il n'a pas besoin de passer de l'une à l'autre chose. Et par conséquent, il voit immédiatement les conséquences des actes qu'il pose, et notamment quand il s'attaque à nous. Vous voyez, par exemple, la loi sur le divorce qui a maintenant à peu près 150 ans d'existence en France. On ne s'est pas rendu compte au début les dégâts que ferait la loi sur le divorce dans les familles catholiques. On a cru que cette loi n'allait que casser les familles des païens. Et puis on se dit, après tout, ce n'est pas grave, ce sont que des païens. Oh, la famille, même chez les païens, c'est important. 150 ans après, que voyons-nous? Que non seulement la loi sur le divorce, la loi Naquet de 1870-80, quelque chose comme ça, la Troisième République, cette loi non seulement a détruit les familles non catholiques, elle a détruit les familles catholiques. Elle a déboussolé les enfants qui n'ont plus de repères. Elle a donné une habitude d'infidélité et par conséquent, elle est la cause de beaucoup de ralliements au mondialisme, à la révolution et même au modernisme. Eh bien, cela, les démons le savaient dès qu'ils ont poussé à la promulgation de la loi. Et à l'inverse, lorsque vous posez un acte qui peut vous paraître anodin, si jamais un principe qui tient à cœur au démon est en cause, alors le démon accorde à cet acte-là une importance qui vous paraît hors de proportion. Regardez Cassandre Fristeau, qui a simplement écrit sur une pancarte « Qui ?» point d'interrogation. Eh bien, les ennemis du Christ ont vu là une atteinte à leur supériorité, ils en ont fait une affaire de principe, et alors cette affaire a pris une dimension qui n'a rien à voir avec le petit mot qui était écrit sur la pancarte de cette femme. Saint Paul appelle les démons des puissances pour montrer le pouvoir de l'esprit sur les corps physiques. Ce pouvoir est considérablement supérieur au pouvoir des corps physiques les uns sur les autres. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Un esprit n'est pas seulement plus pénétrant, plus intelligent, plus tout ce que vous voulez. Un esprit a sur la matière une puissance que la matière n'a pas sur la matière. Saint Paul les appelle maîtres des ténèbres de ce monde, et rappelez-vous ce que je vous ai dit à la suite de saint Thomas, pour qu'ils ne perdent pas leur utilité, Dieu leur a livré le monde de l'air, voyez, non pour le régir, mais pour y exercer les bons à la lutte et dominer les mauvais. C'est un point sur lequel Mgr Lefebvre insistait beaucoup. Dieu avait prévu dans un premier temps que l'homme se sanctifie dans la paix au paradis terrestre. Et depuis que l'homme a péché, il se sanctifie maintenant dans la lutte. Et rappelez-vous ce que l'archange Raphaël a dit de la part du Saint-Esprit à Tobie, « Parce que tu étais agréable à Dieu, il était nécessaire que la tentation t'éprouve. » Et Job, un peu dans la même situation, dit « La vie de l'homme sur la terre, c'est une lutte, un combat. » Deuxièmement, dans le sermon, le pouvoir que les démons n'ont pas, parce qu'ils ne sont pas tout-puissants. Les démons ne peuvent pas entrer dans notre âme si nous ne leur ouvrons pas la porte. Et même là, ils n'entrent pas vraiment dans l'âme. Ils ne peuvent pas lire nos pensées, jamais. Ils peuvent savoir ce que nous pensons si nous le disons, mais nos pensées, ils ne peuvent pas les lire. Ils ne peuvent pas nous mettre des idées directement dans l'intelligence. Ils ne peuvent pas entrer, à l'inverse, voyez, ils ne peuvent pas lire nos pensées, ils ne peuvent pas nous mettre des pensées à eux dans l'intelligence. Ça, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas entrer malgré nous dans notre volonté. Et donc, ils ne peuvent pas violer notre liberté. Et même dans un cas de possession démoniaque, je ne m'étendrai pas sur les possessions. Les possessions sont très extérieures à l'homme. Elles peuvent être une punition ou une épreuve. Mais même dans les cas de possession, le démon ne peut pas entrer dans l'âme. Troisième point du sermon, ouais, le deuxième était bref. Le pouvoir que les démons possèdent sur les hommes. Alors ça, c'est important. Ils peuvent créer des images et des sons et des paroles, comme on fait au cinéma. Or, vous savez que l'image n'est pas la pensée, mais c'est à partir de l'image que l'homme dégage la vérité des choses et qu'il forme sa pensée, à partir de l'expérience sensible. Par conséquent, les images et les sons vont avoir une grande influence sur la pensée, une influence indirecte, tout à fait indirecte, mais malgré tout. Pour que les images et les sons créés par les anges ne déforment pas la pensée, il faut la maîtrise de la raison, c'est la raison qui domine. Or, que voyons-nous aujourd'hui ? Nous voyons un peuple, des peuples, qui ont été rendus très influençables aux images et aux sons. Donc, qui ne contrôlent plus leurs émotions par leur raison. Et par conséquent, par là, ils commencent déjà à ouvrir leur âme aux démons. Le démon a une telle puissance sur les images, les sons, qu'il peut même créer des paroles, et quelquefois, tout cela, les images, les sons, sont si puissants que la raison toute seule aurait énormément de mal, voire même serait presque incapable de discerner la ruse du démon, et c'est la foi qui va nous permettre de discerner. Vous avez Simon le magicien, au premier temps de l'Église, à l'époque des apôtres, a voulu se faire passer pour Jésus-Christ. Il a annoncé son ascension au ciel. Et Simon le magicien est monté au ciel. Il était porté par des démons, évidemment. Il ne peut pas monter tout seul. Il ne peut pas être porté par les anges. Donc il était porté par les démons. Et le bon Dieu n'a pas voulu que Simon le magicien trouble au-delà de ce qui était... trouble trop les premiers chrétiens. Et donc lorsque Simon a été assez élevé dans les airs, Dieu a donné l'ordre aux démons de le lâcher. Les démons sont bien obligés d'obéir à Dieu. Ils ont lâché Simon, qui s'est écrasé malheureusement, pauvre loque, écrasé aux pieds des apôtres. Maintenant, dans les derniers temps, le bon Dieu pourrait permettre que notre foi soit mise à l'épreuve, et c'est ce que la très sainte Vierge dit à la sellette, que le démon fera des prodiges tels que les élus pourraient être troublés, et si les élus ne réagissent pas avec la foi, eh bien, ils n'arriveront pas à discerner, à déceler la ruse du démon. Les pécheurs, eux, se sont mis volontairement sous la puissance des démons. Et ces images entrent facilement dans leur raison mauvaise et faussent leur intelligence. Non pas directement, mais ce sont eux. Ils ont envie de voir ces images pour nourrir leur intelligence avec des erreurs. Ils ont envie d'écouter les mensonges du démon, parce que cela permet de justifier leur péché. Il faut savoir que le démon est un menteur rusé. Menteur, tout le monde le sait, peu y font attention. Mais rusé, alors là, peu de monde le savent, et peu de monde y fait attention. Il est le père du mensonge, mais surtout de la duplicité. Il est capable de prêcher le vrai pour avoir le faux. Le catéchisme du Concile de Trente parle de la violence de ses attaques, de la perfidie de ses ruses, auxquelles ni la prudence, ni les forces humaines ne sauraient résister. Il faut la force de la grâce, de la foi, de l'amour de Dieu et de la grâce. Par exemple, le démon peut très bien montrer des proches, des gens que vous aimez bien, en enfer, pour nous désespérer. Cela ne veut pas dire que les proches sont en enfer. Peut très bien faire du cinéma avec des âmes qui sont en enfer sans y être du tout. Il peut créer de toutes pièces des images impures. Il peut faire des faux miracles, etc. Le pouvoir des démons sur les pécheurs vient de ce que tout pécheur se livre soi-même aux démons. Le pécheur souhaite, il aime croire ce que les démons lui disent. Il souhaite entendre les mensonges du démon. Ça lui convient. Il souhaite et il aime profiter des images que les démons lui présentent. Ça lui convient. Tous les pécheurs se livrent, mais plus ou moins. Et vous avez dans les péchés contre l'esprit, qui livrent totalement le pécheur au démon. le péché contre l'esprit coupe les choses à la racine. Tant qu'il n'y a pas le péché contre l'esprit, le pécheur s'est gardé la possibilité de sortir des griffes du démon. C'est très difficile, c'est très dangereux, le pécheur risque d'être surpris par la mort avant de l'avoir fait, il le peut quand même. Quand le péché contre l'esprit, le pécheur se livre complètement, radicalement au démon. Et alors là, pratiquement pour le sortir de là, il faut un miracle. Les péchés contre le Saint-Esprit, la présomption, le désespoir, la présomption de croire qu'on peut résister aux démons comme ça par ses seules forces naturelles, le croire qu'on peut se sauver sans mérite, le refus de la vérité connue. Et ça, ce sont des péchés que commettent les libéraux. Alors, heureusement, tous les libéraux, surtout les catholiques, ne commettent pas ces péchés avec la même intensité. Et c'est pour ça qu'un homme qui tombe dans le libéralisme a beaucoup de mal à en sortir, parce qu'il s'est aveuglé, et il ne s'est pas rendu compte, il n'a pas voulu se rendre compte, mais en s'aveuglant, il s'est livré au démon. Et alors du coup, il est le jouet du démon. Le Concile de Trente fait remarquer, et saint Ignace le fait remarquer également dans ses exercices, que lorsqu'un homme est vraiment établi dans le péché, le démon n'a plus intérêt à se manifester, il le laisse glisser lui-même, tout seul, ce qui fait que les pécheurs, quand on leur parle de l'influence du démon, n'y croient pas. Le Concile de Trente dit non, ils n'y croient pas. Ils disent que nous exagérons. C'est ce qu'on voit actuellement. Tandis que les bons, eux, le démon veut les récupérer, et le démon les attaque. Et finalement, ce sont ceux qui n'ont pas résisté au démon qui le voient moins, et ce sont ceux qui ont résisté au démon qui le voient le plus. Et il y a une tentation spéciale pour les bons, c'est le désespoir. Ce que tu as fait n'est rien, ce n'est pas suffisant, tu as gâché ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait comme il fallait. Et comme les bons sont bons, très vite, ils voient qu'effectivement, ils n'ont peut-être pas été à la hauteur de ce que Dieu attendait d'eux, et si on ne fait pas attention à cela, on tombe dans le désespoir. Les remèdes ne peuvent être que surnaturels. Nous sommes dans une lutte surnaturelle, les moyens naturels ne peuvent pas suffire. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et c'est dramatique aujourd'hui parce que vous avez plein de gens qui réagissent avec des moyens naturels, soit parce qu'ils ne connaissent pas la foi, la grâce de Dieu, soit parce qu'ils estiment que ça ne marche pas, soit parce qu'ils estiment qu'il faut commencer par les moyens naturels et puis on verra le reste après. Et ça, c'est les pièges du démon. Rappelez-vous ce que dit le Concile de Trente. La violence de ces attaques, la perfidie de ces ruses, auxquelles ni la prudence humaine, ni les forces humaines ne sauraient résister. Donc le principal moyen de résistance, évidemment, c'est la grâce, mais pour obtenir la grâce, il faut la prière. C'est la prière, et c'est pourquoi le Notre Père ne nous laissait pas succomber à la tentation. Et il y a 7 demandes que nous faisons à Dieu, et c'est une des 7, c'est dire si elle est importante. Particulièrement la prière à la Très Sainte Vierge, bien sûr, et au Christ en croix. Deuxièmement, les sacrements. Monseigneur Lefebvre nous disait, parce que souvent des gens qui pensaient être victimes du démon demandaient les exorcismes. Et Monseigneur Lefebvre nous mettait en garde. Et ça, c'est important. Si on fait des exorcismes à quelqu'un qui n'en a pas besoin, on entretient chez lui une idée fausse du démon, on lui fait croire qu'il va pouvoir s'en sortir avec des moyens qui ne sont pas les bons, puisqu'il n'est pas objet de possession démoniaque. Du coup, il risque de laisser tomber les moyens qui seraient les bons. Donc ne vous surprenez pas, mes bien chers frères, si quelqu'un demande des exorcismes et que nous, les prêtres, nous les refusons. Monseigneur Lefebvre nous conseillait de les refuser la plupart du temps. Certes, il y a quelques cas où il faut même les utiliser. Mais Monseigneur insistait en nous disant, celui qui vit dans l'amitié de Dieu, qui prie, qui communie, qui se confesse, Il n'a pas besoin des exorcismes, habituellement, habituellement. Il est protégé par le bon Dieu. Le bon Dieu ne permet pas que quelqu'un qui est son ami soit en même temps pris par le démon. Sauf cas tout à fait exceptionnel pour lui faire gagner de grands mérites. Et puis vous avez les sacramentaux, le signe de la croix, l'eau bénite, le nom de Jésus, le nom de Marie. Enfin, vous avez la pénitence et en tout premier le jeûne, dit notre Seigneur. Ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière. La seule vraie pénitence que l'Église impose à tous les chrétiens, c'est le jeûne. Autrefois, elle imposait 52 jours de jeûne dans l'année, jusqu'en 1960. Il y a d'autres pénitences possibles, mais l'Église ne les a pas imposées. Mais les premières armes contre le démon sont des armes intérieures, l'humilité, la foi, la confiance en Dieu, la vertu d'espérance. C'est à l'intérieur de nous-mêmes que se trouvent les armes pour lutter contre le démon, et ce sont ces armes qu'il faut mettre en œuvre. C'est là qu'il faut puiser notre force contre le démon. Les œuvres extérieures, même les sacrements. Un sacrement ne porte pas de fruits chez quelqu'un qui n'est pas bien disposé. Si quelqu'un n'est pas humble, le sacrement ne portera pas de fruits. La foi, l'esprit de foi, voir les choses comme Dieu les voit, pas se laisser impressionner par le monde. L'esprit de foi va beaucoup plus loin que la foi. C'est la foi qui guide, c'est la foi qui éclaire la route. Alors, pour conclure, courage, petit troupeau, j'ai vaincu le monde. Saint Jean, votre victoire sur le monde et donc sur les démons, c'est votre foi. Notre Seigneur, ce monde est déjà jugé et condamné. Notre-Dame, terreur des démons, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.